Trapi Blog Radio sur Marmite FM, présenté par Mehdi Litim.
Les blogueurs du Trapi Blog prennent le micro.
Une émission de débat avec les blogueurs du
Trapi Blog. Ce qui est important, c'est vraiment...
Déjà en 2002, je m'intéressais à ce qui se passait en France.
Justement, j'aimerais rebondir sur...
Dans le fond, c'est quelque chose qui nous concerne tous.
Le Trapi Blog Radio
sur Marmite FM,
présenté par Mehdi Litim.
On fait comme ça. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission du Trapi Blog Radio avec aujourd'hui deux adolescentes qui sont membres de l'espace jeune Paul Langevin de Trappe, avec donc Razan qui a 15 ans, bonjour Razan.
Bonjour.
Et avec Assetou qui a 16 ans, bonjour Assetou.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez proposé, qui est la manière dont vous vivez vos années d'école et de lycée. On va voir un petit peu ce que vous vivez un petit peu de négatif parfois. Et puis, on va terminer l'émission en voyant ce que vous pourriez proposer pour que les choses s'améliorent. Est-ce que toi, tu as l'impression, assez tout, que les relations avec les enseignants, on va commencer par ce sujet-là, elles sont plutôt bonnes ou elles sont plutôt à améliorer ?
Moi, je pense que les relations avec les professeurs, elles sont à améliorer.
Alors, qu'est-ce que toi, tu vois comme problématique ?
Je trouve que nous, en tant qu'élèves, on ne sait pas entendre par rapport aux autres profs.
Alors, du coup, qu'est-ce que toi, tu as en tête quand tu dis que vous ne faites pas écouter par les profs ? C'est quoi que...
Par exemple, imagine on est en cours et un prof, il veut nous poser une question. C'est quoi la racine carrée de B ? Je vais juste me tromper, mais il voudra par exemple dire « Ah non, mais t'abuses, on l'a vu, non. » Et après, je vais dire « Monsieur, c'est pas grave, tout ça, non. » Il va pas nous écouter.
Ouais, Razan.
Par exemple, pour les notes, les profs, ils vont nous rabaisser. Et on va pas se faire écouter. Par exemple, si je vais avoir une mauvaise note, le prof il va dire « Oui, mais t'as pas eu bon à tel contrôle, t'aurais dû plus t'exercer sur ça, etc. »
Pourquoi est-ce que toi, tu trouves que c'est injuste ?
C'est injuste parce que son rôle, c'est de nous faire comprendre. Et là, il n'est pas en train de nous faire comprendre, mais de nous rabaisser. Et ça fait mal. Et ça ne va pas nous aider à évoluer. Et du coup, pour le reste du contrôle, on va se dire tant pis, pour cette matière, je vais avoir une mauvaise note. Je vais m'exercer sur d'autres matières, c'est pas grave, etc.
Quel impact ça a sur l'image que tu as de toi, sur ta confiance, le fait que tu vas avoir une mauvaise note et que quelque part tu vas pas sentir de soutien de la part du prof? Est-ce que c'est quelque chose dont tu te fiches un peu, ou c'est quelque chose quand même qui peut avoir un impact?
Évidemment, ça a un énorme impact parce que je vais complètement m'auto-rabaisser. Je vais me dire oui, mais de toute façon je suis nulle, ça sert à rien. Et il y a des personnes qui ont un mental très faible et ça peut amener jusqu'à la dépression, la phobie scolaire. Et voilà.
Est-ce que toi, tu as connu des gens qui, autour de toi, ont vraiment été impactés négativement par des notes, par des retours négatifs des profs sur des notes ?
J'ai une copine qui a arrêté l'école et elle est tombée aussi en dépression. Du coup, elle n'allait plus à l'école. Ses parents, ils l'ont rabaissée. Du coup, moi, en fait, ça me faisait mal parce que ça me faisait de la peine. Et de me dire qu'il y a des gens qui sont impactés par l'école, qui sont en phobie scolaire. Et il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ça, qui se disent « Oui, mais elle a peur d'aller à l'école, c'est rien, c'est que des mauvaises notes, elle peut se rattraper. » Mais en fait, pour moi, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne le comprendras pas.
Ah, c'est tout là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, toi ?
Moi, j'ai un ami à moi, il avait des problèmes familiaux. Et du coup, à l'école aussi, ça n'allait pas. Et du coup, ça veut dire que les profs, tout le temps, allaient faire des remarques. Ah, t'as eu telle note, non mais toi tu vas pas réussir. On lui a même dit, devant toute la classe, ouais, t'auras pas ton bac, ça c'est sûr.
Et du coup, quel impact tu penses que ça peut avoir, ces paroles-là, sur ces élèves ?
Une manque de confiance en soi, dire que je suis nulle, se dire que comme l'école c'est pas fait pour moi, aller peut-être dans des chemins pas très bien, pas les bons, pas les meilleurs. Et ensuite, après, aussi se retrouver égaré dans sa tête. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça.
Quand tu dis égaré, tu as quoi en tête ?
Être perdu, sans repère, en mode... en fait, à la fin, tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas ce que tu as envie de devenir après. Tu te dis qu'à l'école, si tu es nul à l'école, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu peux réussir sans diplôme ?
ce sentiment en fait de pas être soutenu que vous décrivez par rapport à l'école. Razan, t'en as parlé très rapidement, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Tu disais que ça pouvait être en plus amplifié par ce qui peut se passer au sein de la famille. Comment est-ce que toi tu vois ça, le rapport entre des parents et des ados qui auraient des mauvaises notes? Comment ça se passe?
On va se sentir complètement rabaissé auprès de nos parents. Par exemple, il y a des parents très stricts par rapport à l'école. Et par exemple, si un élève il peut ramener une mauvaise note, ses parents ils peuvent le rabaisser en lui disant « Oui, mais toi, t'es nul à l'école. » Ça peut même en venir à être comparé à un autre membre de la famille, par exemple à une cousine, ou jusqu'à se dire « Oui, mais toi, t'es plus nul que elle. »
Alors du coup, le fait d'avoir des discussions comme ça avec les parents, ça a quel impact?
C'est un impact négatif, parce que on va se dire déjà qu'on n'a pas une bonne image envers les profs. On a ni une bonne image envers nos parents. Pour moi, des parents, c'est important, on doit les rendre fiers. Et là, par exemple, si une mère elle va dire « Oui, mais je suis déçue de toi », en fait, cette parole, elle va être répétée, répétée, répétée.
Et du coup, sur l'impact, tu sais, on disait tout à l'heure qu'une mauvaise note pouvait avoir un impact négatif sur le mental, en fait, d'un élève ou d'une élève. Est-ce que tu as l'impression que les parents se rendent compte à chaque fois de l'impact que ça peut avoir une parole négative sur leur enfant?
Non. Et ça, je trouve que ça doit être beaucoup mis en avant, parce qu'il y a des parents qui ne comprennent pas, qui ne se mettent pas à la place de leurs enfants. Et ça peut être grave, parce que l'enfant, il peut faire une dépression, et ça, il ne peut jamais en parler. Il va dire « Oui, mais je ne peux pas en parler à mes parents. »
Oui, c'est tout.
Comme Razan, elle a dit, l'enfant, il peut se refermer sur lui-même. Les parents, ils se rendent pas forcément compte, en tout cas de ce que je peux voir et entendre. Les parents, ils se rendent pas compte quand l'enfant est mal. Et en tant qu'adolescent, on n'exprime pas nos sentiments comme on devrait. Par exemple, on va pas en parler, on va tout garder pour nous. On peut se dire que c'est qu'une phase, ça va passer. Alors qu'on va en passer tous les jours. En allant à l'école, on va se dire on a des mauvaises notes, on va rentrer, nos parents vont nous crier dessus.
Est-ce que dans tout ce paysage-là, est-ce que de temps en temps, vous avez quand même des enseignants ou au sein de l'établissement des infirmières ou d'autres personnes, des surveillants ou des surveillantes qui jouent le rôle quand même de soutien psychologique? Ouais, Razan.
Moi, j'avais une prof, quand j'étais au collège, une prof d'art plastique, et elle avait vu que j'avais des bonnes notes qu'avec sa matière. Et elle m'a pris à la fin du cours. Et elle m'a dit que c'est très bien que j'avais des bonnes notes dans sa matière, que je devais continuer comme ça. Et ça serait bien si ça serait dans toutes les matières. Elle m'a encouragée et franchement, ça a eu un impact aussi parce que ça m'a boostée. Et en fait, je me rappellerai toujours d'elle parce que franchement, c'était la seule prof gentille et je l'aimais bien.
Alors, imaginons qu'on se mette deux secondes à la place des profs. Donc, vous imaginez, vous connaissez ça par cœur, il y a un enseignant, une enseignante, il y a une classe pleine, et puis dedans, en fait, il y a des élèves qui parlent, il y a des élèves qui sont pas sérieux, voilà, qui sont pas vraiment à l'écoute, on va dire, du cours. Est-ce que vous arrivez à comprendre que de temps en temps, les profs, ils pètent un câble, ou ils soient pas sympas, ou pas trop?
Moi, je comprends, parce que ils viennent pas à l'école pour faire la police, ils viennent pour exercer leur métier. Et en fait, des fois, moi, les profs, ils me font un peu de la peine, parce que, par exemple, moi, j'ai envie d'écouter le cours, et il y a des élèves perturbateurs qui font n'importe quoi, qui n'écoutent pas le prof. Et du coup, moi, je pense que, en soi, je comprends pourquoi ils sont méchants, entre guillemets. Et
ouais, c'est tout.
Moi aussi, je comprends que les profs, ils crient, ils s'énervent, même ils mettent des sanctions. Mais après, des fois, ils vont faire des sanctions collectives. Et ça, je trouve ça petit. Enfin, ils ne devraient pas sanctionner tout le monde pour un groupe d'élèves.
Alors, ça prend quelle forme, ces sanctions?
Par exemple, un rapport de classe, ou par exemple, c'est comme ça, évaluation surprise pour toute la classe. Après, c'est vrai que souvent, les profs, ils font de la peine. Même, ça peut tellement les impacter que certains profs peuvent en pleurer.
T'as quoi, toi, comme souvenir de ces situations-là?
En classe, on était en classe.
C'était au collège, au lycée?
Au lycée. C'était cette année. Il y avait eu beaucoup de bruit en maths. Et c'était une nouvelle prof. Bah, du coup, il y avait eu beaucoup de bruit. Il y avait aussi des projectiles et je ne sais plus trop quoi. Et la prof, à la fin du cours, elle a craqué. Elle est partie à l'administration en pleurs. Et du coup, ça veut dire que toute la classe, on a été sanctionnés, rapport de classe. Il a fallu avoir une exclusion de classe, mais du coup, il n'y a pas eu. Et après, finalement, que les personnes qui ont fait des bêtises ont été sanctionnées. Mais sinon, il n'y avait pas tout le monde. Mais ça m'a fait de la peine pour la prof. Mais après, de là, avoir un rapport de classe...
Tu trouves qu'il faut individualiser les sanctions, quoi.
Exactement. Okay.
Comment est-ce que vous vivez le rythme à l'école? C'est-à-dire que vous commencez tôt, de temps en temps, le matin. Vous finissez relativement tard. Vous passez beaucoup d'heures assises à écouter les enseignants. Comment est-ce que vous vivez ça, Razan?
Personnellement, c'est un grand écart avec le collège et le lycée. C'est deux choses complètement
différentes. Donc toi, tu es en seconde. Oui. Donc tu viens de rentrer au lycée, finalement. Oui. Ouais.
Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Par exemple, pour les horaires, au collège, j'avais le temps de manger à midi, etc. Et moi, je ne mange pas à la cantine. Je n'ai pas le temps de rentrer chez moi. Je prends le bus. Du coup, j'ai 10 minutes. Et 10 minutes, ça passe super vite. Des fois, je n'ai pas le temps de manger. Ça veut dire que je prends juste mes affaires et je sors. Et quand on a des trous, il y a des cours qui doivent être placés à ces trous.
Mais alors, du coup, tu dirais que c'est quoi le souci là, dans cet exemple-là?
Que ça nous rajoute trop de cours. Déjà qu'on en a déjà beaucoup et que la plupart du temps, je termine tout le temps à 17h. Et il y a aussi les profs qui déplacent aussi leurs cours.
C'est-à-dire que j'imagine que c'est des cours qui ont été annulés, c'est ça, qui sont rattrapés. Mais ce que toi, tu dis, c'est que vous avez des semaines qui sont déjà très chargées. Donc, quand on surcharge ces semaines-là, toi, en fait, t'en peux plus à la fin.
Exactement.
Ouais, c'est tout.
Moi aussi, surtout quand lycée professionnel, on a souvent 4 heures avec une seule prof. Du coup, ça veut dire que les journées peuvent être très longues. En plus, c'est 4 heures avec la même prof dans la même salle.
Alors, explique-nous comment ça se passe quand tu es 4 heures avec une même prof sur une même matière.
Généralement, ça se passe bien la première heure. Ensuite, la deuxième heure, on sent que... Il y a quelques élèves qui commencent à décrocher. La troisième heure, on n'en peut plus. Et la quatrième heure, même la prof nous le dit des fois. Genre, c'est beaucoup trop, 4 heures dans la même salle avec le même prof. En sachant qu'après, on a une autre matière. Surtout que les récréations sont toutes petites. Genre 10 minutes, pas plus, ou maximum peut-être 15. Et du coup, ça veut dire qu'on est épuisé quand on rentre chez nous. Surtout que si on a des sports en dehors ou même des loisirs, improvisation, boxe, théâtre, après, on peut être vite fatigué.
Est-ce que ça a un impact là-dessus, ce rythme-là, sur votre motivation à l'école?
Oui.
Alors, lequel?
Moi, personnellement, parce que j'ai beaucoup de fois 3 heures, 4 heures de suite... je me dis, je ne viens pas à la première heure ou même aux deux premières heures, je vais après. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, la première heure, ça se trouve, ils vont apprendre quelque chose de super important pour la suite et qu'après, moi, je viens à la fin. Du coup, déjà, ça nous décale, on devra rattraper. Et du coup, ça veut dire que... voilà.
Mais en fait, on pourrait se dire que pour régler ce problème-là, que tu évoques, il suffirait juste de venir en fait dès la première heure. Toi, comment tu vis le fait de ne pas venir la première heure? Est-ce que c'est vraiment t'angoisse avant d'aller en cours en te disant mais c'est pas possible que je me mange 4 heures, ou c'est plutôt en mode en fait c'est facile parce que j'ai pas besoin de plus rattraper que ça? Comment ça se passe?
Au tout début, c'était un peu dur parce que j'avais pas l'habitude. Mais à force, je me suis habituée. Donc maintenant, 3-4 heures, maintenant j'y vais. Mais après, c'est vrai que quand c'est 3-4 heures le matin, c'est toujours un peu plus difficile parce que, comme Razan l'a dit, on n'est pas très matinal.
Toi, par exemple, tu commences à quelle heure le plus tôt le matin?
8 heures.
Et il faut que tu te lèves à quelle heure pour être à l'heure en cours?
En fait, je sais. Je veux dire 6h, 6h40.
6h40, et là, t'es... Voilà. Et tu te couches à quelle heure?
Ça dépend. Par exemple, juste après les vacances, comme les vacances, on a pris l'habitude de dormir tard. Je vais souvent dormir peut-être vers minuit, 1h. Sinon, je vais essayer de gérer mon temps et de dormir peut-être vers 22 heures.
Et ça, t'y arrives avec quand t'es sur Snap ou quand t'es sur Insta et que tu commences à scroller, comment tu gères ?
Bah, en bout d'un moment, même moi, ça m'épuise. Donc, ça veut dire automatiquement, je veux dire, je veux dormir. Bon, après, c'est vrai que c'est, surtout sur TikTok, c'est dur parce qu'on se dit une dernière, tout ça. Mais après, moi, je me dis avant minuit, il faut que je dors, en fait. Du coup, ça veut dire j'arrive.
Et t'y arrives ?
Généralement, oui.
Ouais, Razan, là-dessus. Comment ça se passe le matin ?
Le matin, moi, j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Du coup, des fois, je ne vais pas le matin à 8h. C'est-à-dire, je vais à 9h ou à 10h. Et en soi, moi, je trouve que ce soit normal qu'on commence à 8h. Je ne vais pas dire que c'est exagéré, parce que pour notre métier, plus tard, etc., on aura l'habitude de se réveiller, par exemple, à 6h, 5h pour certains métiers, par rapport aux réseaux sociaux, pour dormir, etc. Moi, des fois, je me dis demain, je commence à 8h. Et en fait, je me fixe automatiquement des horaires. Par exemple, si un jour je commence à 10h, je vais dormir plus tard que si je commençais à 8h.
Et est-ce que tu arrives à gérer du coup ces horaires-là ? Parce que souvent, on entend de la part de jeunes à l'école le fait que les nuits sont un peu courtes parce qu'il y a les réseaux, parce qu'il peut y avoir autre chose d'ailleurs, qui fait qu'on se couche tard. Et le matin, s'il faut se lever à 6h40 ou s'il faut se lever à 7h, alors qu'il fait froid dehors et qu'il fait nuit, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas trop l'énergie. Comment est-ce que toi, tu vis ça ?
En soi, moi, pour dormir, j'ai tellement pris l'habitude que pour dormir, pour moi, c'est facile. Et pour le réveil aussi, parce que je me réveille à 6 heures.
Alors, comment tu expliques le fait que tu n'ailles pas pendant les premières heures de cours au lycée ?
C'est souvent parce que c'est une matière que j'aime pas, qui me donne pas envie d'y aller. Par exemple, le jeudi après-midi, enfin, c'est pas tout le temps le matin, mais c'est aussi l'après-midi, j'ai TP, et 1h30, 1h30. Ça veut dire, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a pas la récréation de 15 heures. On a une récréation de 15 minutes.
Alors, du coup, quand vous êtes en cours pendant 4 heures, comment ça se passe tout bêtement quand vous voulez aller aux toilettes comment vous gérez ?
Nous, dans mon lycée, on ne peut pas aller aux toilettes quand on veut depuis cette année. Les toilettes, ils sont ouvertes que pendant les récréations.
Alors, du coup, quel impact ça a ?
Imaginons, on a envie d'aller aux toilettes pour X raisons, boire de l'eau, ou même pour des problèmes de fibres, parce qu'on est indisposé, tout ça, on peut même pas. Et du coup, ça veut dire que on doit prendre notre mal en patience.
Alors, comment ça se passe, par exemple, quand tu vas voir des filles qui vont avoir peut-être leurs règles ? Est-ce qu'il y a moyen quand même de sortir de la classe et de gérer cette situation-là ou pas ? Comment ça se passe ?
Non, parce qu'on n'a quand même pas le droit de rester dans les couloirs ou même sortir de classe. Du coup, ça veut dire que certains profs, ils peuvent compatir avec nous, mais ils ne peuvent même pas nous laisser aller aux toilettes ou même sortir de classe. Du coup, ça veut dire qu'on doit rester dans les classes.
Ok, donc ça ressemble un peu à de la torture là, pour certaines filles. Ça peut être le cas de certains garçons. Par exemple, si un jour on ne se sent pas bien, on se sent un petit peu malade, comment est-ce que vous vivez ça, vous ?
Nous, en vrai, on commence peu à peu à s'habituer, mais après, c'est pas un mode de vie d'aller tous les jours au lycée et qu'en moins une fois par jour, on est obligé d'aller aux toilettes, même pendant le cours. Après, pendant la récréation, on n'a pas forcément envie d'aller aux toilettes. Et juste après, par exemple, on aura envie et les profs, ils pensent qu'on le fait exprès, mais pas du tout.
Il y a toujours cette idée que vous n'êtes jamais dans une relation de confiance avec les profs. J'entends ça, je me dis comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation ? Si toi tu avais une baguette magique ou si d'un coup tu devenais ministre de l'éducation nationale, qu'est-ce que tu changerais pour que la situation des élèves ou le rapport entre les élèves et les enseignants soit meilleur ?
Essayer d'avoir plus de communication, de dire à la directrice notre point de vue et comment on se sent. Peut-être elle comprendrait et essaierait de trouver une solution pour ouvrir les toilettes et qu'ils nous comprennent.
Et par rapport aux profs, parce qu'on a quand même beaucoup parlé des rapports entre les élèves et les profs, par rapport aux notes, par rapport à la confiance de manière générale, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer la situation entre les élèves et les profs ?
C'est toujours de la communication. Parce que je me dis que si on en parle à un prof ou même à plusieurs profs en même temps, qu'ils pourraient comprendre Si on leur parle calmement, dans le respect, tout ça, ils pourraient comprendre et essaieraient de s'adapter à nous. Mais après, c'est vrai que souvent, les profs, ils n'ont pas le temps de nous parler ou peut-être ils ne veulent pas.
Donc, il faudrait organiser presque des sessions de discussion entre des représentants des élèves et des enseignants, voire la directrice, voire l'infirmière, pour essayer d'améliorer la situation. Tu penses que ça suffirait ?
Bah oui, parce que si c'est la directrice, je pense que beaucoup plus d'enseignants et même de personnes de l'équipe pédagogique pourraient nous écouter et ça pourrait faire essayer d'avancer un peu les choses.
Razan, toi, comment est-ce que tu vois une manière dont on pourrait améliorer la situation à l'école entre les enseignants et les élèves ?
Bah, c'est d'en parler tous ensemble. Par exemple, de prendre une heure en dehors des cours ou des choses comme ça. Par exemple, nous, on a une grande salle, du coup, pour faire une petite réunion, pour parler de ça, etc.
Ok, très bien. Bah, merci à toutes les deux pour votre retour d'expérience, très intéressant. On espère qu'on pourra aider à engager des discussions au sein de vos établissements scolaires. On verra, vous nous ferez un suivi. Et merci à toutes les auditrices et auditeurs du Trapiblog Radio et à très bientôt pour une nouvelle émission en partenariat avec Marmite FM.
Au revoir.
Le Trapiblog Radio sur Marmite FM présenté par Mehdi Litim.
Les blogueurs du Trapiblog prennent le micro.
Une émission de débat avec les blogueurs du
Trapiblog.
Ce qui est important, c'est vraiment
déjà en 2002, je m'intéressais à ce qui se passait en France.
Justement, j'aimerais rebondir sur...
Dans le fond, c'est quelque chose qui nous concerne tous.
Le Trapiblog Radio
sur Marmite FM
présenté par Mehdi Litim.
On fait comme ça.